Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce mercredi matin est Damien Joran. Il est responsable adjoint à la communication du Rassemblement National des Côtes d'Armor. Et il est venu de loin en voiture ce matin pour être avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler évidemment politique, un exercice que nous faisons chaque matin sur l'antenne de Bretagne 5. Beaucoup de sujets en ce moment, on va parler de budget, on va parler de Donald Trump, tenez. Et on va peut-être même commencer par cela puisque on parle beaucoup des droits de douane actuellement et je sais que vous êtes attaché au sujet agricole.
Tout à fait, vous avez raison de le souligner.
Voilà, avec évidemment aujourd'hui une inquiétude du monde de l'agriculture, des agriculteurs, face à ces droits de douane qui risquent de les impacter fortement, avec plusieurs inquiétudes aussi autour des traités, des fameux traités, on parle du Mercosur. J'avais envie de commencer justement par cette politique américaine qui risque fortement d'impacter l'agriculture française et bretonne en l'occurrence.
Tout à fait, parce que l'agriculture bretonne, c'est une agriculture qui se veut nourrissant la population, une agriculture aussi d'exportation, malgré que... Mais effectivement, on est une agriculture qui permet de faire vivre la population bretonne et la population française. Et le fait que Donald Trump ait mis des droits de douane à la hauteur de 25% sur l'aluminium et sur l'acier européen présage que les produits agricoles ne seront pas en reste pour toute l'Union européenne et en particulier pour la France. Cela va avec le Mercosur qui a été promulgué par Ursula von der Leyen qui n'a aucune légitimité à le faire car elle a tout simplement été nommée par des technocrates européens sans aucune légitimité. Elle gouverne sans aucune légitimité, encore une fois.
Alors justement, l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, elle est faible face à la politique qu'entend développer Donald Trump. Alors tenez, là encore, comme ça au hasard, en matière d'agriculture, elle ne répond pas aux attentes du monde agricole, à ce que demande le monde agricole.
Oui, car le monde agricole aujourd'hui est beaucoup trop normé pour permettre aux agriculteurs d'avoir un salaire décent. Le monde agricole aujourd'hui fait que... La politique agricole aujourd'hui de l'Union européenne, pardon, fait que les agriculteurs ne peuvent pas vivre décemment de leur production. En France, il y a trop de normes et les normes ne sont pas les mêmes partout. Vous avez en Espagne, par exemple, sur le bio, des tomates qui sont, par exemple, totalement différentes par rapport aux tomates françaises, qui, évidemment, donc dans les supermarchés, seront à un prix inférieur aux tomates françaises, pour ne parler que de ce sujet-là. Les consommateurs qui voient leur pouvoir d'achat diminuer depuis la crise du Covid, par intelligence, si je puis dire, du fait de leur portefeuille, vont se tourner évidemment vers le produit le moins cher, on peut le comprendre. Donc c'est évidemment désastreux aujourd'hui pour l'agriculture française et pour l'agriculture bretonne.
Avec justement cette différence dans la concurrence, effectivement, avec ces pays qui n'ont pas ou peu de normes, et des agriculteurs français, européens, qui sont très, très contraints par les normes. On avait aussi une colère des agriculteurs, alors j'avais envie de vous entendre là-dessus, parce que ça fait beaucoup débat, contre l'Agence française de la biodiversité. On l'a entendu aussi dans le fil du débat autour du budget, en tout cas du projet de loi de finances et de suppression possible d'agences. Est-ce qu'il faut maintenir cette agence française de la biodiversité? Est-ce qu'il faut la réformer ou est-ce qu'il faut, comme certains le demandent, complètement la faire disparaître?
Non, il faut la conserver, il faut évidemment la réformer, parce qu'aujourd'hui, on a la sensation, les agriculteurs ont la sensation que cette agence est là pour les desservir, pour... être entre guillemets leur gendarme au lieu de les aider. On a entendu des responsables de cet organisme comparer les agriculteurs à des dealers. Voilà, vouloir les stigmatiser autant que des dealers. Bon, le jour où un dealer nourrira 3000 personnes en moyenne, faudra venir me le signifier. Les agriculteurs aujourd'hui sont la profession, l'une des professions en tout cas les plus utiles à la société. Donc il faut arrêter de les stigmatiser. Il faut au contraire un organisme qui est là pour les aider et qui n'est pas là au contraire pour les stigmatiser.
À l'aune de l'urgence climatique, il faut aussi que les agriculteurs changent leur façon de travailler, modifient leur méthode. Voilà, le fameux modèle agricole breton dont on parle beaucoup a vécu.
Écoutez, j'aurais pas la prétention de venir faire ce matin une leçon d'agronomie aux agriculteurs. Voilà, ils savent mieux que moi comment labourer un champ, comment prendre soin de leurs animaux. Ce qu'il faut, c'est leur faire confiance, parce que ce sont eux qui sont en première ligne de l'écologie. Voilà, ce sont pas les écologistes qui sont sur les plateaux de télé ou de radio à donner des leçons d'écologie au micro, aux caméras, ce sont bel et bien les agriculteurs. Quand vous faites pâturer dans les champs des vaches qui prennent soin du territoire, qui prennent soin de la faune et de la flore, ce sont eux qui font la biodiversité et l'écologie. L'agriculture française qui est la moins consommatrice de pesticides en Europe. Vous allez peut-être me faire rebondir sur le sujet des algues vertes. Le Parisien a sorti une étude cet été disant que ce sont les produits ménagers qui font les algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc, par exemple. Ce ne sont pas les pesticides. Donc c'est facile d'accuser les agriculteurs, mais quand les études et les chiffres sortent, tout de suite, on se rend compte que ce ne sont pas eux qui sont, qui sont les coupables de ce qui arrive en Bretagne aujourd'hui.
Alors, si on veut rebondir sur le sujet écologique, il faut une véritable... Et souvent, on reproche au Rassemblement national de ne pas se pencher sur les questions de l'écologie, de l'environnement. On pense par exemple à l'eau aujourd'hui. Il y a une forte dégradation de la qualité de l'eau. Est-ce qu'il faudra, si demain vous arrivez aux affaires, comme l'on dit de façon un peu triviale, est-ce qu'il faudra avoir un véritable plan justement pour l'écologie, pour l'environnement, pour l'eau ? On n'est pas habitué à avoir ce discours du côté du Rassemblement national.
Mais il faut aujourd'hui effectivement prendre toute la mesure de ce que veut dire aujourd'hui l'écologie, de ce que veut dire aujourd'hui le changement climatique. Et nous, au Rassemblement National, ce que nous préconisons, en tout cas sur l'énergie, qui est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, en tout cas dans le monde, c'est de continuer la politique qui a été, entre guillemets, prise courageusement par le général de Gaulle, c'est-à-dire continuer de développer notre secteur nucléaire. Voilà, nous avons l'électricité la plus verte et la moins chère d'Europe, donc il faut continuer sur ce segment-là, et c'est ce que le Rassemblement National veut aujourd'hui.
Alors, avec de plus en plus de consommation d'énergie, il y avait jusqu'à hier à Paris le sommet autour de l'IA, l'intelligence artificielle, et avec des effets pervers, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de technologies, l'intelligence artificielle va gagner beaucoup de secteurs, ça veut dire installer des centres, des data centers, comme l'on dit, qui sont très consommateurs d'eau pour refroidir les machines, mais aussi très consommateurs d'énergie, ce qui risque d'avoir aussi un effet pervers. Il va falloir un nouveau plan Messmer, quelque part, pour construire de nouvelles centrales, pour pouvoir produire de l'énergie, ou est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie à votre avis? Avec les énergies durables, on pense aux éoliennes ou au solaire.
Non, aujourd'hui, les éoliennes et les énergies durables ne vont pas fournir la majorité de l'électricité, ou en tout cas suffisamment d'électricité pour alimenter ces data centers qui sont des monstres de consommation électrique, mais qui seront demain l'instrument de notre souveraineté numérique, ce qui sera important dans le monde qui est en train de se construire avec une sorte de retour à la bipolarisation entre un bloc américain puis un bloc soutenu par la Russie, la Chine et l'Iran. Il faudra continuer à développer notre secteur nucléaire. Nous avons les meilleurs ingénieurs nucléaires du monde. Voilà, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes, c'est pas les Américains, ce sont les Français qui sont les meilleurs dans ce monde-là. Notre bijou en matière de technologie, Alstom, a été vendu par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Nous l'avons racheté. Voilà, la Macronie vous dira ah oui, mais nous l'avons racheté. Mais entre-temps, les brevets.
Fallait-il le vendre, c'est ça la question.
Non, il ne fallait pas le vendre évidemment, mais les brevets, les connaissances, les ingénieurs sont partis avec les Américains. Tout cela est évidemment revenu, mais les Américains ont gardé notre savoir-faire. Et il faudra évidemment ouvrir de nouvelles centrales nucléaires ou empêcher celles qui sont aujourd'hui en cours de fermeture de fermer si demain nous arrivons aux responsabilités, c'est évident.
Avec un risque d'opposition justement des partis politiques, alors on pense aux Verts, en tout cas aux écologistes, on pense aussi à quelques partis de gauche qui vont s'opposer évidemment à ce qu'il y ait un développement du parc nucléaire.
Écoutez, moi je ne prends pas au sérieux les écologistes sur ce sujet-là, tout simplement parce qu'ils sont ceux qui défendent l'écologie à l'allemande, c'est-à-dire qu'actuellement l'Allemagne a fait fermer des villages entiers pour permettre l'ouverture de mines de charbon. Voilà, quand on est écologiste, par définition, on ne veut pas que des mines de charbon continuent à s'ouvrir dans un pays fut-il étranger à la France. Moi, je ne vais pas les prendre au sérieux, tout simplement, sur cette question. Le nucléaire, et ça, c'est prouvé, démontré, c'est une énergie qui est sûre, qui est propre et qui est viable. Donc, notre position sur ce sujet-là... est bien plus sérieuse que les écologistes.
Avec le mot que vous avez lâché tout à l'heure, souveraineté, aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté européenne, hein, c'est ce qui a été...
Qui est à mon sens, mais bon...
Voilà, c'est Emmanuel Macron hein, qui a employé, le président de la République qui a employé le terme. La souveraineté, on la voit revenir un petit peu partout. Par exemple, les États-Unis qui veulent garantir leur souveraineté, qui veulent pouvoir commercer comme ils entendent, annexer en ce Groenland. Voilà, je ne sais pas si l'idée est très bonne.
Le retour de la politique de la canonnière, en quelque sorte. Voilà.
Voilà. Et est-ce que il y a une autre souveraineté, une autre voie, selon vous?
La souveraineté, elle incombe à chaque État. À mon sens, il n'y a pas de souveraineté aujourd'hui européenne. Ce que font aujourd'hui les États-Unis, c'est-à-dire de dire à la Colombie, bah, vous reprenez vos délinquants étrangers ou vos clandestins, bah, c'est une très bonne chose. Nous ferons la même chose demain avec l'Algérie. Marine Le Pen l'a dit, et je le dis aujourd'hui au micro de Voix 5, nous le ferons avec l'Algérie, bon, qui est un pays qui se veut aujourd'hui hostile à la France, mais avec tous les autres pays. Voilà, aujourd'hui, la souveraineté passe par, évidemment, aujourd'hui, la souveraineté numérique, voilà, qui est un secteur de plus en plus important, mais aussi le fait qu'on retrouve le contrôle de nos frontières. Donc c'est aussi un pan que défend le Rassemblement National de cette souveraineté qui est aujourd'hui très importante vis-à-vis d'une Union européenne qui se veut ouvrir encore plus les frontières à grands coups d'arrivage de migrants dont nous ne voulons plus aujourd'hui.
Alors justement, il y a un grand débat autour de l'immigration aujourd'hui. Il y a une attente des Français pour qu'il y ait une voie qui soit trouvée. Est-ce qu'il faut mieux accueillir et continuer à accueillir? Est-ce qu'il faut mieux accueillir mais moins accueillir? Et évidemment, les problématiques que vous souleviez à l'instant, Damien Joran, la problématique de l'Algérie. Est-ce qu'il faut par exemple revoir le traité de 1968?
Il ne faut pas le revoir, il faut le supprimer. Ce traité.
Le supprimer, voilà, vous me l'enlevez de la bouche, c'est-à-dire vraiment le supprimer et puis repartir sur autre chose, avoir de nouveaux accords. Est-ce que finalement la fracture de la guerre d'Algérie est toujours en suspens avec nos relations avec ce pays de l'autre côté de la Méditerranée?
Écoutez, si fracture il y a, c'est l'Algérie qui l'entretient. Vous voyez, si l'Allemagne avait la même rancune vis-à-vis de nous sur le sort de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, la construction européenne ne se serait pas faite. Donc aujourd'hui, il faut avancer. Voilà, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Il faut la prendre dans son entièreté. Vous savez, Napoléon Ier disait de Clovis au Directoire, j'assume tout. Voilà. Donc sur 1000 ans d'histoire, il assumait absolument tout et assurait par là la continuité de l'État. Bah, nous assumons tout de l'histoire de France. Effectivement, on doit certes discuter avec tous les pays du monde, mais un pays hostile à la France comme l'Algérie, bah, on doit discuter avec lui pour tenter de régler les problèmes. Et si ce pays-là se montre toujours hostile, ne veut pas régler les problèmes, ben on ne pourra pas faire grand-chose de plus que de le laisser dans son dans sa volonté d'être véhément à l'égard de la France.
On parlait du traité de 1968. Il y a aussi des accords économiques avec l'Algérie. On pense au gaz. On pense aussi à l'aide au développement que la France verse à l'Algérie également. Il faut supprimer tout cela. Il faut arrêter. Il faut rentrer dans un bras de fer, dans un rapport de force.
Mais tout d'abord, il faut rentrer évidemment dans une sorte de discussion, mais je crois que le temps de la discussion aujourd'hui arrive à son terme et il faut arriver à des mesures plus fortes, voilà, des avertissements verbaux, diplomatiques, et puis si effectivement le jour où ces avertissements auront été donnés et qu'ils seront laissés sans réponse, ben, voilà, il faudra prendre des dispositions qui seront certes tristes pour le peuple algérien et le peuple français, tristes plutôt pour le peuple algérien, voilà, il faudra prendre des mesures, voilà, fortes pour dire, ben, voilà, la France aujourd'hui, le jour où nous serons aux responsabilités, la France ne plaisante plus avec ceux qui sont insultants à son égard.
Avec aussi ce débat actuellement autour du droit du sol, on l'a vu autour de Mayotte, avec cette demande aussi des Mahorais de limiter l'immigration comorienne, et cette volonté aussi, on l'a entendu dans les rangs du Rassemblement National, que cette loi, si elle est appliquée à Mayotte, le soit aussi sur le territoire national, en métropole. Ça voudrait dire qu'en France, on reverrait l'accueil des personnes qui souhaitent venir dans notre pays avec le rétablissement du droit, en tout cas l'abolition du droit du sol, je vais y arriver, l'abolition du droit du sol.
Oui, il faut revenir sur cette notion-là. Nous proposons au Rassemblement National une modification de la Constitution pour retrouver demain le contrôle de nos frontières, et nous voulons une loi pour supprimer ce droit du sol. À ce titre-là, j'en profiterai pour dire que la France insoumise et la gauche se couchent devant cet état confetti qu'est les Comores, en disant par la voix du député Raphaël Arnaud, vous voyez, moi je suis allé danser avec un artiste comorien, finalement l'amour et la paix dans le monde, c'est une très bonne chose, il faut tous s'entendre, vive la paix, il faut que les Comores puissent avoir accès à Mayotte. quand j'entends un parti français dire que la France, quatrième puissance nucléaire mondiale, sixième puissance économique mondiale, doit se coucher devant les Comores, voyez, moi ça me laisse plus que dubitatif vis-à-vis de l'intérêt que porte la France insoumise vis-à-vis de l'intérêt des Français et de, surtout de l'intérêt, dans le cas de votre question, des Mahorais et des Mahoraises. Ce qu'il faut, c'est supprimer le droit du sol à Mayotte. Et je vais ensuite porter mon attaque sur les Républicains qui disent oui, mais effectivement, nous, on pense comme vous, le Rassemblement National, dans les fourches collines des assemblées, des palais de la République, ils disent oui, mais on pense comme vous, voilà, il faut supprimer le droit du sol. Et donc, nous leur disons chiche, venez avec nous, votez avec nous. Ah, mais oui, vous comprenez, nous, on va pas faire comme vous, on va pas essayer de. On va faire différemment. Donc, le vote sur un amendement qui a été proposé pour supprimer le droit du sol à Mayotte, s'est vu rejeté à une courte majorité, car 22 députés LR se sont abstenus et que 6 d'entre eux ont voté contre. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité. Les seuls qui défendent aujourd'hui l'intérêt et les idées des Français, c'est le Rassemblement National et leurs élus.
Alors sur la sécurité, on parle aussi beaucoup de sécurité, c'est un sujet qui est cher au Rassemblement National également. On a vu un Bruno Retailleau très présent dans les médias, alors l'actualité dramatique de ces dernières heures l'ont amené à s'exprimer. Est-ce que la politique de Bruno Retailleau finalement, c'est pas déjà la politique du Rassemblement National si demain vous deviez arriver à la fonction suprême par exemple?
Non, pas du tout, vous l'avez dit, il s'exprime mais il n'agit pas. Donc vous voyez, ce que fait Bruno Retailleau, il est en campagne pour je ne sais quel destin, peut-être y pense-t-il en se rasant le matin, mais je ne crois pas que Bruno Retailleau, et c'est même une certitude, sera à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Il parle beaucoup, parfois comme nous, mais effectivement, non, il faut que le Rassemblement National soit demain en responsabilité pour que la sécurité des Français soit véritablement garantie à l'échelle nationale.
Alors, il y a une grande demande aussi, effectivement, de la part des Français de sécurité dans les villes, souvent pointé du doigt, évidemment, le trafic de drogue, qui ne concerne plus seulement Marseille ou Paris, par exemple, mais aussi des villes moyennes. Et ici, dans l'Ouest, on pense à Nantes, on pense à Rennes, à Brest, à Lorient. Est-ce que, là aussi, si demain, le Rassemblement National réalise son vœu d'accéder, par exemple, à la présidence de la République, il faudra avoir la main ferme et qui ne tremble pas sur le trafic de drogue avoir véritablement là aussi un plan pour pouvoir endiguer ce trafic.
Évidemment, il faudra. Nous n'aurons pas demain, comme vous l'avez dit, la main qui tremblera lorsqu'il faudra mettre en application des lois, parce que c'est pas les présidents politiques qui font appliquer la justice, mais quand il faudra mettre en place des lois, mettre en place des mesures pour que la police intervienne dans tel ou tel quartier de telle ou telle ville. Vous voyez, aujourd'hui, vous l'avez dit, les villes comme Nantes et Rennes deviennent invivables du fait de l'insécurité croissante qui est due d'une part à une immigration incontrôlée qui se veut de plus en plus répartie dans des villes qui n'étaient auparavant pas touchées, mais également du fait du trafic de drogue. Aujourd'hui, dans Rennes, vous avez des points de deal à ciel ouvert dans le plein centre-ville. Vous avez des coups de feu qui retentissent pendant une heure de coups de feu sans intervention de la police nationale. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut de toute urgence, c'est une urgence véritablement aujourd'hui, mettre en place une politique beaucoup plus dure vis-à-vis de ces délinquants et de ces dealers qui aujourd'hui rendent la vie impossible aux habitants de ces villes, de ces quartiers-là.
Et il faut une réforme de la justice aussi. On entend souvent les policiers se plaindre que, ma foi, ils arrêtent un dealer et ils le recroisent dans la rue quelques jours plus tard. Il faut changer aussi de braquet, si vous me permettez l'allégorie sportive, concernant la justice.
Tout à fait, il faut aujourd'hui que la justice soit beaucoup plus sévère et de manière générale soit plus répressive vis-à-vis des délinquants. Vous voyez, on te prend la main dans le sac, t'es en train de dealer ou en train de consommer, ben, évidemment c'est casse-prison. Vous voyez. Mm-hmm. Si demain un dealer qui est attrapé est étranger, il passe devant évidemment la justice française et il sera renvoyé immédiatement chez lui. Ce genre de délinquant n'a rien à faire en France et dans nos prisons françaises. Les Français iront en prison, ceux qui sont reconnus coupables évidemment, et les coupables étrangers retourneront dans leur pays.
Avec toujours, on l'a vu, on parlait de l'Algérie tout à l'heure, la difficulté à faire rentrer les OQTF ou ceux qui ne sont pas désirés sur le territoire français, dans leur propre pays, qui parfois peut les refuser. Là aussi, il faudra user de diplomatie, avoir une réflexion au niveau européen, international.
Évidemment, il faudra discuter avec ces pays-là, d'accord, de voir sur quel levier on peut appuyer ou pas pour pour leur faire accepter de reprendre eh bien leurs ressortissants qui aujourd'hui n'ont plus vocation par définition s'ils sont aux OQTF à être sur le territoire national, c'est évident.
Ça ne sera pas simple évidemment, peut-être au niveau international en tout cas.
Non, parce que vous voyez, des pays comme l'Algérie, je le disais tout à l'heure, ne sont pas ouverts à la discussion sur les OQTF, ça paraît évident. Donc il faudra évidemment faire usage de diplomatie douce, parfois un petit peu plus sévère.
On va revenir au débat politique franco-français. Il y a eu le vote du budget, ça a été très compliqué. Le Rassemblement national n'a pas souhaité censurer le gouvernement Bayrou. Ce qui peut encore arriver, on a entendu dans vos rangs quand même plusieurs voix un petit peu dissidentes, si vous me permettez le terme, pour dire, voilà, on ne donne pas un blanc-seing finalement au gouvernement sur ce budget. Il est bon ou il est mauvais ce budget ?
Écoutez, ce budget, il est ce qu'il est, il est plutôt mauvais, parce qu'évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons fait, nous ne sommes pas en responsabilité. Mais nous avons choisi de ne pas le censurer pour être dans une opposition qui se veut construite. Voilà la différence du côté gauche de l'hémicycle, qui se veut être dans une bordélisation à tout va, qui veut censurer absolument jusqu'à ce que ce soit eux qui arrivent aux responsabilités. Je pense qu'ils peuvent toujours rêver sur ce point-là. Mais sur ce budget, nous avons quand même arraché des avancées assez conséquentes. Nous avons empêché le prix de l'électricité de croître encore. Nous l'avons même fait baisser de 15%. Nous avons fixé l'augmentation des retraites. Nous l'avons indexé sur l'inflation. Donc ce sont de belles avancées. Vous voyez, mais ce n'est pas suffisant et nous continuerons à travailler dans l'intérêt des Français et des Françaises, c'est évident.
Parce qu'il y a une attente des Françaises, des Français sur le pouvoir d'achat. On le voit aujourd'hui. Une crainte aussi pour l'avenir avec quand même une économie fragile qui ne va pas bien, des entreprises qui ferment. On le voit ici en Bretagne. Là aussi, il va falloir redonner l'espoir dans le futur pour que les Français puissent vivre à nouveau d'abord, puissent avoir un pouvoir d'achat décent et puissent se projeter sur l'avenir.
Mais pas seulement de l'espoir, il faudra des mesures pérennes pour qu'effectivement demain, le Français qui vit de sa petite entreprise, de sa petite PME, ben, il arrive à vivre décemment de son affaire. Vous voyez qu'une personne qui demain ne fait rien et touche voilà, des aides sociales, ne vivent pas mieux qu'une personne qui travaille, qui se lève tous les matins, qui fait vivre aussi des salariés. Et ça, ce n'est pas normal. Donc il faudra évidemment que nous revenions sur ce point-là, c'est indéniable.
Alors, on a vu depuis quelques jours les grandes manœuvres commencer. On parle un petit peu plus dans la presse, dans les médias, sur nos antennes, dans les radios, des municipales 2026, avant l'élection présidentielle. J'imagine qu'au Rassemblement national, vous êtes en ordre de marche pour les municipales. Vous avez des idées dans l'Ouest? Allez, je vous demande pas de scoop, mais on sait, à travers un article qui a été écrit par notre confrère Benjamin Kels, qui est paru dans Le Monde, que le Rassemblement national progresse beaucoup en Bretagne, qui n'est pas forcément sa terre d'élection à l'origine. Est-ce que pour vous, ça vous donne espoir de conquérir des villes, par exemple, comme Brest, comme Rennes? Allez, on va prendre la Bretagne historique, comme Nantes.
Écoutez, je vais rappeler à vos auditeurs le score que nous avons fait, en tout cas dans les Côtes-d'Armor. Nous avons fini en tête du second tour des élections législatives en termes de nombre de voix, avec 110 000 voix. Les macronistes étaient derrière avec 106 000. Donc c'est une bonne base pour les élections municipales. Mais il faut garder à l'esprit que les élections municipales ne sont pas des élections nationales où le politique compte quasiment autant que la personne qui sera tête de liste, qui sera potentiellement maire. Mais cependant, nous avons, vous l'avez souligné, eu une très belle progression lors des élections législatives partout en Bretagne. Nous avons fini au second tour dans 26 des 27 circonscriptions bretonnes. Vous voyez, en 2022, nous n'étions au second tour dans aucune des 27 circonscriptions bretonnes. Nous avons effectivement des stratégies pour arriver demain aux responsabilités dans des villes. Alors, je pense aux grosses villes du département des Côtes d'Armor, comme Saint-Brieuc, Guingamp ou encore Dinan. Mais nous allons aussi nous concentrer sur des villes un peu plus modestes, de plus de 3000 habitants, car c'est dans ces petites communes, aujourd'hui et demain, que vont arriver, si nous ne faisons rien, de plus en plus de flux migratoires, de plus en plus d'insécurité. Donc il faudra des maires à la poigne plutôt ferme pour contrôler ces villes-là sur le plan de l'insécurité.
Alors c'est un peu ce que vous reprochent vos détracteurs, à gauche en particulier, en disant voilà, le Rassemblement national joue sur les peurs, sur l'immigration, sur l'insécurité, avec un fond de racisme. C'est ce que l'on lit, c'est ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ?
Mais c'est de la diffamation. Si y a des peurs, effectivement, sur l'insécurité, ben, c'est qu'elle existe. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, dans la ville de Rennes, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des deals à ciel ouvert, des points de deal à ciel ouvert, sans qu'il y ait des agressions, malheureusement parfois. Donc, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, il faut que les élus et les responsables politiques qui disent ça arrêtent de se voiler la face, qu'ils sortent un petit peu de leur palais doré, qu'ils aillent se balader dans la rue, vous voyez, qu'ils constatent le même constat que nous faisons depuis quasiment 50 ans, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une. Je ne vais pas dire un ensauvagement de la société, mais que l'insécurité aujourd'hui croît dans notre pays de manière, non pas exponentielle, mais de manière assez certaine. Vous voyez, nous sommes le pays européen avec le plus d'insécurité dans nos rues. Et ce n'est pas des pays aux frontières de la Russie, des pays de l'Est, c'est la France. C'est la France de la 5e République qui aujourd'hui est le pays où il y a le plus d'insécurité. Donc ce n'est pas un sentiment, c'est pas, effectivement ça fait peur, mais ce sentiment d'insécurité, mais cette insécurité-là, mais ce n'est pas un sentiment justement, c'est une réalité.
Alors avec aussi une inquiétude, on a vu des budgets qui ont été votés, par exemple, en Pays de la Loire, avec Christelle Morançais, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, qui a coupé des moyens aux associations, à diverses structures culturelles ou sportives, avec la volonté de rééquilibrer son budget. On l'a traité de femme d'extrême droite, hein. Ce sont des termes qu'on a pu lire.
Mais selon eux, tout ce qui n'est pas à gauche, de toute façon, est d'extrême droite. Donc, vous voyez, un centriste, pour eux, c'est quelqu'un qui est, selon eux, d'extrême droite. Donc, c'est voilà. Bon.
Je précise que Christelle Morançais appartient au groupe Horizon. Hein. Justement, c'est une bonne idée de couper justement les subventions comme ça, ou selon vous, c'est une violence, il fallait le faire plus doucement, en tout cas en concertation avec les intéressés.
Mais écoutez, les subventions qui ont été coupées, nous sommes pour couper des subventions à des associations qui se veulent anti-patriotes, par exemple, qui se veulent pour l'accueil des migrants, qui se veulent anti-agriculteurs. Ces coupes de subventions, ces coupes de subventions, en tout cas à la région Bretagne, s'il y avait eu de telles subventions proposées, et il y en a d'ailleurs qui sont proposées, pardon, nous ne les votons pas au groupe du Rassemblement National. Mais effectivement, c'est une certaine brutalité politique, mais si la région que préside Mme Morançais arrive à rester sur les rails, eh bien c'est une sorte de mal pour une sorte de bien, mais il faut que ça reste exceptionnel pour continuer à contribuer au monde associatif dans une certaine mesure, évidemment.
Voilà, garder le maillage associatif qui est important, c'est le cas ici en Bretagne. On a entendu le président de région qui a dit « moi je ne bougerai pas, on fera des économies, mais on le fera plus doucement et plus tard ».
Non, ils ne feront pas des économies, ils ont augmenté, si vous voulez, le prix de la carte grise pour une nouvelle immatriculation. Le prix du cheval fiscal est passé à 60 euros. Nous avons en Bretagne le record de France du cheval fiscal le plus élevé. Donc il n'y a pas d'économie qui est faite. C'est encore un impôt supplémentaire qui pèse sur les Français et les Françaises, et en l'occurrence là sur les Bretons en particulier. Il n'y a pas d'économie. Voilà, monsieur Chesnay-Girard ment. C'est un impôt en plus prélevé sur le dos des Français.
Un dernier mot, il nous reste une petite poignée de secondes. On parlait des élections municipales, de la présidentielle. Viendra après le temps des élections régionales. Alors, on est encore très loin, mais déjà, le Rassemblement national creuse son sillon pour la suite.
Écoutez, vous l'avez souligné tout à l'heure, on monte dans toute la région, hein, comme la marée en mer, sur nos rivages. Mais pour les élections régionales et départementales, on est encore un peu loin, effectivement, pour se situer. Mais les augures, si vous me permettez, sont bonnes, puisque nous montons partout, les élections municipales se profilent, nous allons monter des listes dans plusieurs communes, donc le maillage territorial que nous sommes en train de constituer sera un atout pour les élections régionales qui vont arriver, et avant elles, évidemment, les élections présidentielles, car nos élus pourront donner leur parrainage à Marine Le Pen le jour où elle se présentera à la présidence de la République.
Voilà, c'est un peu le sens de ma question. Merci infiniment Damien Joran, responsable adjoint à la communication du Rassemblement National des Côtes d'Armor, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Belle journée à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.